France Culture.
Journal présenté ce soir par Nicolas Ballu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Il n'aura pas fallu longtemps aux sénateurs pour voter en deuxième lecture la réforme de l'audiovisuel cet après-midi. Le gouvernement a utilisé la procédure de vote bloqué pour accélérer les débats. Obstruction aura été un mot beaucoup prononcé à la fois par Rachida Dati et l'opposition durant ce débat. Fiona Mogadam nous expliquera pourquoi. Des dizaines de milliers de fûts radioactifs dans l'Atlantique et ce depuis des dizaines d'années. Leur état est plutôt inquiétant, a pu constater une mission du CNRS. Les explications de Grégoire Le Callot. La Russie a désigné la France comme son principal adversaire en Europe. C'est l'avertissement du chef d'état-major français Thierry Burkhardt lors d'une rare conférence de presse. Vous l'entendrez. À Gaza, l'ONU indique que 800 personnes ont été tuées en tentant d'obtenir de l'aide humanitaire depuis le 27 mai. 27 mai, jour où la fondation humanitaire soutenue par les USA et Israël a commencé à distribuer des boîtes de produits alimentaires. L'image est forte, le moment symbolique en Turquie. Un groupe de combattants du PKK dépose les armes. Le parti des travailleurs kurdes entame un désarmement censé mettre fin à l'un des plus anciens conflits de la région. Les explications de Marie-Pierre Véraud dans ce journal. Les sénateurs ont voté cet après-midi la controversée réforme de l'audiovisuel. La proposition de loi a été adoptée par 194 voix contre 113, adoption express, puisque ce texte qui prévoit de créer une holding qui chapeauterait France Télévisions, Radio France et l'INA, ce texte était en discussion depuis hier. Or ce matin, devant ce qu'elle appelle l'obstruction de la gauche, la ministre de la Culture Rachida Dati a demandé un vote bloqué, c'est-à-dire un vote sur l'ensemble du texte avec des amendements que le gouvernement a lui-même choisi. Bonsoir Fiona Mogadam.
Bonsoir.
Ce vote à l'issue sans surprise, c'est en quelque sorte le point d'orgue d'un débat où il aurait été surtout question de tactique plutôt que de fond.
Oui, c'est face à la lenteur de l'avancée des débats commencés hier que la ministre de la Culture a dégainé son arme constitutionnelle, le vote bloqué, Rachida Dati.
On a vu encore ce matin... Encore de l'obstruction, toujours de l'obstruction. On a discuté d'un amendement en 30 minutes de manière redondante. Et il en reste 301. Force est de constater qu'à nouveau, il y a un souhait, notamment de la gauche, d'empêcher le Parlement de se prononcer.
Obstruction, le dernier amendement sur lequel on a travaillé, c'était un amendement sur la liberté éditoriale et l'indépendance des médias.
La sénatrice socialiste Colombe Brossel.
L'obstruction, elle est entre les mains du gouvernement qui fait de l'obstruction au débat sur un sujet aussi majeur que la réforme de l'audiovisuel public.
Après une série de rappels au règlement et à la reprise des débats, après la pause méridienne, les parlementaires de gauche ont tout simplement quitté l'hémicycle. Le sénateur écologiste Guillaume Gontard.
Pas de débat, pas de possibilité d'échange, de travailler ensemble. Donc la seule chose qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de quitter cet hémicycle, de vous laisser entre vous. Et vous aurez peut-être raison tout seul, mais j'en doute beaucoup. Mesdames et messieurs les censeurs, bonsoir.
C'est donc sans débat qu'a été adoptée la loi, ce que regrette le président de la commission culture à l'origine du texte sur l'audiovisuel public, le centriste Laurent Lafon.
Personne ne peut se satisfaire de la façon dont ce texte est voté, mais néanmoins le vote d'aujourd'hui est un vote important, c'est une marque de l'approbation de la Chambre haute sur cette proposition dont je rappelle qu'elle est d'origine sénatoriale.
De quoi répondre aux critiques de la gauche qui a plusieurs fois qualifié le texte de projet de loi Dati.
Le texte doit revenir à l'automne à l'Assemblée nationale. La date est encore indéterminée. De cette réforme, il a beaucoup été dit qu'elle était nécessaire à la ministre de la Culture pour pouvoir présenter un bilan pour sa campagne municipale à Paris l'an prochain. Les oreilles de Rachida Dati ont décidément dû siffler puisqu'hier, après un long parcours législatif, la réforme du scrutin pour les municipales à Paris, Lyon et Marseille a été définitivement adoptée par les députés. Elle devrait donc s'appliquer pour le prochain scrutin en 2026, sauf si censure du Conseil constitutionnel. Un texte taillé sur mesure pour la future candidate, mais plus globalement, et quelle que soit la candidate ou le candidat, cette réforme peut-elle avoir une influence sur le résultat à Paris, à Lyon, à Marseille? Question posée par Antoine Maret à Yves Saint-Omer, professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 8.
Il faut être très prudent dans les pronostics car il y a encore énormément d'incertitudes sur les personnalités et les listes qui vont s'affronter. Si cette loi avait été appliquée au dernier scrutin, ça n'aurait rien changé ou en tout cas ça aurait été quelque chose à la marge. Il y a un cas où la loi a changé des choses, c'est la première utilisation par Gaston Defferre dans les années 1980 à Marseille, où il a pu être élu alors qu'il avait un nombre de voix inférieur à celui de son concurrent. Ce qui par contre sans doute va changer, c'est la dynamique de la campagne, car en supprimant l'intermédiaire que représentait le vote par arrondissement, aujourd'hui il y aura un vote par arrondissement séparé du vote à l'échelle municipale, eh bien on a probablement une plus grande personnalisation du scrutin, et il n'est pas impossible que Rachida Dati parie sur sa notoriété, plus grande sans doute que celle de ses concurrents potentiels, pour imprimer une dynamique supplémentaire à sa campagne.
Le professeur de sciences politiques Yves Saint-Omer avec Antoine Marette. Le parquet a requis un an de prison avec sursis et des amendes de 100 000 à 150 000 euros contre deux anciens dirigeants du Canard Enchaîné, l'ancien directeur Escaro et sa compagne. Ils sont jugés pour des soupçons d'emploi fictif. Au cœur de l'affaire, l'emploi de la conjointe du dessinateur rémunéré pendant 25 ans par le journal satirique en tant que journaliste. Les affaires du Dieselgate après Volkswagen, nous vous parlions de Peugeot et Citroën ce matin. Le parquet de Paris requiert également un procès contre Renault pour tromperie aggravée. Alors, Renault est suspecté d'avoir spécialement calibré des véhicules commercialisés entre 2009 et 2017 pour qu'ils respectent les paramètres réglementaires lors des tests d'homologation, mais pas en situation normale. Le constructeur conteste toute infraction. C'est au juge d'instruction que revient la décision sur la tenue d'un procès. On en parle peu, mais depuis des décennies, des centaines de milliers de fûts de matières radioactives sont immergés au fond de l'océan Atlantique. Le CNRS s'est rendu sur place vérifier leur état et en faire une cartographie précise. L'Atalante, le navire qui en était chargé, vient de rentrer à Brest avec une première constatation. Le nombre de fûts est très imprécis et leur état, hélas, très moyen. Grégoire Le Callot.
Nous sommes en plein océan Atlantique, à l'ouest de La Rochelle. Pendant 3 semaines environ, la zone a été quadrillée par le sous-marin Ulix, le premier robot 100% autonome de l'Ifremer. Et ce qu'il a vu sur le sable, jusqu'à 5000 mètres de profondeur, ce sont les résidus de 40 ans de recherche et d'activité nucléaire française. Patrick Chardon, chercheur au laboratoire de physique de Clermont-Auvergne.
On est dans des déchets qui sont associés plutôt à la mise au point des technologies qui ont accompagné le nucléaire de l'immédiate après-guerre jusqu'aux années 80.
La consommation d'électricité double à peu près tous les 10 ans. Mais l'énergie nucléaire vient à point nommé pour compléter les énergies traditionnelles.
À l'époque, c'était un nouveau type de déchet. Il y a eu la question très rapidement de, au-delà de la partie vraiment très très radioactive, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui est contaminé? Et c'est un peu là la solution de se dire l'océan pouvait être une bonne solution. Aussi le fait que c'était peu coûteux aussi à gérer.
Des déchets de laboratoire, des matériaux, des boues contaminées, les fûts ne contiennent pas de déchets hautement radioactifs ou de combustibles. Jacques Chardon le confirme.
Tous les échantillons à leur arrivée à bord étaient contrôlés. Là, on n'a pas eu d'anomalie au niveau, radioprotection, c'est-à-dire l'effet sur le personnel.
Toutefois, les instruments n'ont pas pu prendre de mesures précises de radioactivité en milieu sous-marin. De nombreux fûts sont détériorés et surtout, leur nombre exact reste inconnu, entre 100 000 et 200 000. Ils sont censés être contrôlés tous les 25 ans, ce qui n'a jamais été fait.
Le Kremlin a fait de la France une de ses cibles prioritaires. Cette déclaration vient du chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhardt, lors d'une très rare conférence de presse aujourd'hui. Elle survient quelques jours après une autre intervention inédite du patron de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Intervention à la télévision et avant le défilé du 14 juillet. Alors, répondant à une question d'un journaliste sur le fait de savoir si les Français devaient avoir peur d'une guerre en Europe, le chef d'état-major des armées s'est voulu très clair. Je vous propose d'écouter le général Thierry Burkhardt.
En fait, le risque de guerre en Europe, c'est pas qu'il existe, c'est qu'en fait, il est déjà là. En fait, il y a déjà la guerre sur le continent européen. La guerre en Europe, elle est là, sous nos yeux, avec des jours où il y a plus de 1000 morts. C'est ça, la réalité. La deuxième chose, c'est que la Russie, dans ses intentions, au-delà de sa déclaration de faire la France de son adversaire principal, en fait, cette menace-là, elle est quand même présente. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire peur aux Français? Je ne pense pas. En revanche, je pense qu'il y a une vraie nécessité de prise de conscience. D'ailleurs, pas seulement dans la guerre en Europe. En fait, il y a déjà les attaques qu'on subit sur le territoire national, mais il y a aussi l'Afrique, il y a aussi le Proche et Moyen-Orient, il y a aussi la zone Indo-Pacifique, il y a l'espace. En fait, c'est malheureusement le monde dans lequel on vit. Mon métier, c'est d'écrire le monde tel qu'il est aujourd'hui et en fait de me préparer à remplir les missions qu'on va fixer.
Le général Thierry Burkhardt, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé tout à l'heure en Corée du Nord pour une visite officielle. Moscou et Pyongyang ont largement renforcé leur coopération, y compris militaire, ces derniers temps. Les deux pays ont signé un accord de défense mutuelle lors d'une visite du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord l'an dernier. Et puis un contingent de soldats nord-coréens a combattu les forces ukrainiennes dans la région de Koursk. L'une des armes de la guerre, qu'elle soit militaire ou culturelle, ce sont les réseaux sociaux et la désinformation, et pas seulement pour la Russie. La section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris, une enquête visant le réseau social X et ses dirigeants suspectés d'avoir biaisé l'algorithme de la plateforme à des fins d'ingérence étrangère. L'enquête intervient après deux signalements qui faisaient état de l'utilisation supposée de l'algorithme de X, anciennement Twitter, à des fins d'ingérence étrangère. C'est Elon Musk qui est le propriétaire de ce réseau social. Malgré les multiples avertissements à Gaza, le bilan humain autour de la nouvelle organisation pour l'aide humanitaire à Gaza est devenu vertigineux. D'après le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, presque 800 Palestiniens ont été tués alors qu'ils venaient chercher de l'aide humanitaire depuis fin mai dans la bande de Gaza. Le bilan est particulièrement lourd à proximité des nouveaux centres de distribution organisés par Israël et les États-Unis. Ils sont devenus de véritables coupe-gorge, Étienne Monin.
Paradoxalement, les centres de distribution qui sont censés soutenir la population sont devenus depuis plusieurs semaines les endroits les plus dangereux de la bande de Gaza. Les Palestiniens savent qu'ils prennent un risque à chaque fois qu'ils vont chercher un carton de nourriture, mais ils n'ont pas le choix, il n'y a pas assez d'aliments dans l'enclave et Israël a créé une situation de quasi-monopole avec ses centres de distribution gérés par la Fondation humanitaire de Gaza. Le danger se situe aux abords de ces centres. Pour espérer ramener quelque chose, les Palestiniens s'installent à proximité. Dès la tombée de la nuit, des tirs ont lieu très régulièrement. La situation est très souvent confuse, mais la zone est contrôlée par l'armée israélienne et les témoignages de tirs de militaires ou même d'agents de sécurité se sont multipliés dans la presse israélienne et internationale. En première ligne, près de Rafah, l'hôpital du Comité international de la Croix-Rouge a dû sensiblement augmenter ses capacités pour faire face à ces vagues de blessés. Il arrive parfois 240 personnes en très peu de temps. Ces Palestiniens sont blessés par armes à feu. Certains ont été touchés dans le dos. Les centres de distribution fonctionnent depuis fin mai. Aujourd'hui, l'armée israélienne dit qu'elle a tiré les leçons de ces incidents mortels.
L'armée israélienne qui a poursuivi aujourd'hui ses opérations dans la bande de Gaza au sixième jour de négociations pour un cessez-le-feu avec le Hamas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou dit espérer les voir aboutir dans les jours à venir. L'histoire retiendra peut-être que c'est le 11 juillet 2025 qu'auront eu lieu les premiers signes tangibles de la fin de 4 décennies de guerre entre les Kurdes du PKK et l'État turc. Une guerre dévastatrice, plus de 40 000 morts, des provinces dévastées par les bombardements de l'armée turque, des millions de déplacés et plusieurs milliers de prisonniers. Lors d'une cérémonie très symbolique, un premier groupe de combattants kurdes a déposé les armes. Marie-Pierre Véraud.
Dans les confins arides du nord de l'Irak, dans les gorges non loin de Souleymaniyeh, une trentaine de combattants de la guérilla kurde, hommes et femmes en tenue militaire, descendent des montagnes. Ils portent leurs armes en bandoulière, kalachnikov, fusil automatique, cartouchière, dont ils se dépouillent avant de les entasser dans une grande vasque, puis d'y mettre le feu sous la supervision des services de renseignement turcs. Une cérémonie empreinte de solennité, la Turquie salue un tournant irréversible vers la paix. « Nous sommes des combattants de la liberté », lance l'un des commandants kurdes avant de saluer la paix, la faire taire les armes du fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, appel réitéré depuis sa prison dans une vidéo publiée hier.
Je crois au pouvoir de la politique et de la paix sociale et non des armes. Et je vous appelle à mettre ce principe en pratique. Les derniers développements de la région ont clairement démontré l'importance et l'urgence de cette démarche historique.
Tous ont ensuite regagné les montagnes, le processus n'en est qu'à son début et chacun reste sur ses gardes tant il peut dérailler à tout moment. Le PKK, qui se rebaptise « Groupe pour la paix et la société démocratique », demande désormais à la Turquie de faire sa part du chemin. Les attentes sont nombreuses concernant le sort de milliers de prisonniers politiques et la reconnaissance de la culture, de la langue, de l'identité kurde.
Marie-Pierre Véraud, un mot du temps demain, c'est assez simple. Du soleil sur les deux tiers nord du pays, en revanche le ciel va se voiler sur le tiers sud du pays et les orages vont se multiplier en Occitanie. Les maximales affichent généralement de 28 à 32 degrés sur la plupart des régions, voire de 30 à 35 degrés de la Bretagne au Poitou et les Charentes. Ce journal est désormais terminé. Merci d'avoir suivi à la technique Alexandre Dang.